먹었어?
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Salut à toi, salut à vous, merci de nous retrouver dans ce 15e épisode du Corée Voyage Show en ce 15 décembre, jour de la fin des attestations en France pour pouvoir sortir en journée. Wow. Comme d'habitude, on espère que tout le monde va bien et est en bonne santé. On a aujourd'hui un programme chaud patate, chaud bouillant, avec pour commencer en beauté une interview de Ji-hoon, une artiste coréenne basée en France qui nous présente son travail passionnant. Ensuite, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la chance d'entendre nos deux amis Jeanne et Julien qui nous parlent de la ville satellite de Goyang, située au nord-est de Séoul. Sans plus attendre, on plonge dans l'univers artistique de notre invité Ji-hoon.
Cette
phrase est une phrase de ton grand-père et tu dis que ces mots t'ont profondément marqué, que c'est pour toi une incitation à l'introspection, car regarder la page blanche, c'est regarder à l'intérieur de soi. Alors moi je trouve ça super intéressant, hein. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, mais déjà merci beaucoup Ji-hoon d'avoir accepté notre invitation, je suis vraiment très heureux de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Comment ça va et qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Bah, je suis confinée chez moi. Mais bon, j'ai de la chance que j'ai un atelier chez moi. Donc, je fais pas mal de dessins et de la peinture. Donc, je suis contente d'être confinée à la maison. Même si c'est une période assez dure pour tout le monde, pour moi aussi. Ouais.
Pour revenir sur ton parcours, tu intègres l'école d'art de Gyeongnam à l'âge de 15 ans, puis tu étudies à l'université de Hongik à Séoul, Hongdae, et tu pars en France en 2005.
Oui, j'ai terminé mes études en 2005. En fait, quand j'étais à l'université de Hongdae à Séoul, j'ai rencontré quelques Français qui venaient de l'école des Beaux-Arts de Paris pour un échange à Hongdae pour prendre quelques cours, pour passer quelques séjours à Séoul. Ouais. J'ai fait des connaissances et moi, j'aimais beaucoup leurs idées, leur rapprochement sur l'art. À ce moment-là, je parlais aussi un peu le français, donc je voulais venir en France juste après mes études. Donc en 2005, dès que c'est terminé, j'ai pris un billet d'avion et je suis arrivée en France.
D'accord. Et en 2005, tu arrives à Paris, donc aux Beaux-Arts, hein, de Paris.
Oui, pour passer le concours. Donc,
D'accord. Et tes premières impressions, alors, quand tu arrives en France en 2005, c'est quoi? C'est bonne impression, mauvaise impression, les deux?
Ah, moi, j'étais heureuse. Non, parce qu'en fait, en 2001, je suis venue en France pour apprendre le français pendant 8 mois à peu près. Après, je suis retournée en Corée pour finir mes études. Et quand je suis revenue en France, j'étais vraiment contente. J'ai l'impression de trouver un autre endroit où j'ai passé mes souvenirs. Donc, j'étais heureuse. D'ailleurs, tous les copains que je connaissais qui me voyaient, t'as l'air vraiment à la pêche. C'est vrai que j'avais la pêche, donc j'étais hyper contente de même passer le concours de les Beaux-Arts. Bah, j'ai passé que deux écoles de concours, mais j'étais contente. Thank you.
Pour parler de tes expositions, tu commences à exposer en Corée en 2012, puis dans plusieurs pays européens comme la Slovaquie, la Hollande, la France, où tu présentes des volumes qu'on qualifie d'aériens. Comment est-ce que toutes ces personnes qui t'avaient invité à exposer dans leur galerie ont réagi par rapport à ton travail?
Je crois qu'ils ont, j'étais contente de voir, c'est une technique assez différente, ce qu'ils voient d'habitude, mais bon, après, ouais, ils sont contents, du coup, c'est pour ça qu'ils m'invitent. Parce que, oui, je présente d'abord, souvent, je passais par des concours, je présente mes dossiers, après, j'y vais pour montrer mes pièces, mais pas mal de pièces que j'ai fait sur place. Donc, ils voient des processus, comment je fabrique, comment j'essaie de s'adapter par le lieu. Donc, ils sont contents de me voir travailler, comment je réalise un volume qui est aussi à partir d'un dessin qui est respecté pour le lieu.
Oui, ça c'est vraiment intéressant que tu puisses construire ton volume directement sur place en t'adaptant à l'espace. Ça permet aussi de montrer tout ton travail qui est fait en amont. Tu parles aussi de dessin. Est-ce que tu as toujours aimé dessiner?
J'aime dessiner depuis que je suis toute petite. Le dessin était une sorte de jeu pour moi. Je commençais un dessin et puis pas moyen de m'endormir avant de l'avoir fini. Je pense que j'ai commencé à créer mon univers artistique à travers le dessin.
Et tu as aussi été en contact très tôt avec la photographie.
Pour la photographie, mon père était passionné de photographie.
Ah, ok.
Je me souviens d'avoir passé mon enfance avec un appareil photo autour du cou.
Et donc, tu associes parfois le corps à un objet étranger que tu utilises dans ton travail. Tu dis avoir passé ton enfance dans un hôpital. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Ouais, à l'âge de 5 ans, mes parents décident de s'installer dans la clinique de mon père. Du coup, après l'école, je passe beaucoup de temps dans la clinique avec les patients. Je joue beaucoup avec eux et on devient amis. Et pour moi, la clinique devient alors mon terrain de jeu. Et aussi, bizarrement, mes parents, ils ne veulent pas trop qu'on sorte de la clinique. Donc, il faut qu'on reste après l'école dans la clinique. Et en même temps, mon père, quand il opérait des patients, et il me permet de rester à côté de lui. Et du coup, je regardais, j'observe, et la façon dont il manipule les corps, comme si tous ces corps n'étaient que des objets. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a intrigué aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai un rapport assez fort au corps dans mon travail artistique.
Ok, ouais, mais attends, ton père, il t'autorisait à rester dans la salle, dans le bloc opératoire quand il opérait des patients?
Oui, des grosses opérations. La clinique où ils étaient situés, il y avait pas mal de ouvriers qui venaient de l'usine. Donc, il y a plusieurs niveaux différents des opérations. Donc, quand ce n'est pas dans la salle de bloc opératoire, je pouvais y aller.
D'accord, ça c'était plutôt, tu assistais aux petites opérations, peut-être sur des petites blessures.
Oui, petites blessures, mais bon, en même temps.
Ouais, en même temps, c'est pas trop la place pour une petite de 5 ans. Hein. Et puis, votre maison était carrément dans la clinique ou mitoyenne de la clinique?
En fait, c'était une clinique de 5 étages. Et nous, on vivait 5e étage. Ouais, il y avait des salles d'opération, il y a des salles des patients. C'était un endroit assez spécial. Hein.
Ouais, j'imagine.
Il y avait tout dedans.
Et donc, tes parents, ils ne voulaient pas que tu sortes après l'école. Donc, tu passais vraiment beaucoup de temps à la clinique hein, après, pendant ton temps libre.
Je me demande aussi, c'était une période, les années 80, en Corée, ce n'était pas très stable. Donc, ce n'était pas très assurant que tu restes dans la rue... sans raison. Enfin, je me demande si ce n'était pas cette raison-là. Ils préfèrent qu'on soit dans l'immeuble.
Oui, peut-être, hein, ouais, peut-être. Enfin, moi, j'étais pas en Corée dans les années 80, mais bon, j'imagine que c'était très différent de maintenant. Maintenant, bon, les enfants quand même sortent beaucoup, hein.
Oui. Bah, y a, c'est très sécurisé en Corée.
Oui.
Mais à cette époque-là, c'était pas forcément. Tu vois, on vient de sortir de la guerre. Bon, après, en 80, c'est un peu loin, mais on vient.
Ouais.
Ça commence à développer pas mal tous les sens. Il y a toutes les histoires.
Oui, hein, c'est sûr que le contexte politique du début des années 80 en Corée n'était pas tout rose, loin de là. Avec un régime encore militaire hein, sous le président de l'époque, Chun Doo-hwan, et le soulèvement, le massacre de Gwangju. Bref, pour revenir à ton travail, hein, tu mets en scène des êtres hybrides dans une gestuelle aquatique, aérienne. Tu utilises des matériaux comme le fil de fer et le papier de riz coréen, le hanji. Est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi tu as décidé d'utiliser ces deux éléments en particulier?
Parce que le papier est un matériau important dans les pays asiatiques. Des pliages du papier, des jouets en papier, les lanternes. Et quand j'étais petite, il existait pas mal de jouets en papier. Hein. Du coup, les papiers est un matériau familier pour moi. Et c'est naturellement intégré dans mon travail artistique. Et après, moi, j'intègre, je suis développée par les lanternes, les techniques. Et parce qu'en 2011, j'ai passé quelques jours dans le temple principal de Jogesa, qui est situé dans le centre de Séoul, pour apprendre à fabriquer des lanternes traditionnelles. Et j'adapte, bah, après avoir passé quelques jours de stage, j'adapte ces techniques de la fabrication de lanternes à la conception de mes volumes. Utilisant du papier traditionnel coréen et du fil de fer. J'ai l'impression de donner vie à mes volumes. Par exemple, le fil de fer est la structure que j'associe à un squelette. Et les habillages en papier sont pour moi comme ajouter de la chair à ces corps.
Tu disais avoir un rapport particulier au corps à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi.
Ouais, je crois que c'est ça, mais bah, aussi on a en coréen quand on dit on habille, on met des papiers sur lanterne, il y a un mot qu'on dit saripida, c'est-à-dire qu'on habille la chair.
Saripida. Ok, je vois. Donc c'est intéressant d'associer en coréen le papier avec lequel on fabrique une lanterne avec la chair humaine.
Oui, le papier, mais le papier traduit en coréen bizarrement sale, c'est la peau. Voilà.
Ok, et un autre matériau que tu utilises, c'est le cheveu. Est-ce que tu penses que cela est un lien avec le fait que ta grand-mère était coiffeuse?
Oui, pas forcément que je crois que ça vient d'elle, mais bon, bah, en même temps, mon père utilise les ciseaux, mais moi aussi,
Ouais.
pour le travailler. Mais bon, quand même, les cheveux sont une partie de corps assez particulière, je trouve. À la fois, une prolongement de corps, mais en même temps, c'est une partie abstraite pour moi, parce que c'est une partie souple qui bouge. Et qui pousse, peut-être coupé sans ressentir de douleur. C'est pour ça que je trouve l'utilisation des cheveux intéressante dans mon travail.
Et ah ouais, la question qui tue, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre l'art occidental, qui se base plus sur la composition, et ton art à toi, qui délaisse des zones vides et libère de l'énergie à certains endroits avec un maximum de force?
En fait, pour cette question, c'est pas très facile à dire en deux phrases. Je trouve qu'il n'y a pas de division claire dans l'art contemporain aujourd'hui, dans la société mondialisée là. Et sinon, je trouve que la réponse est dans la question. Comme dans la peinture traditionnelle coréenne, que je ne remplis pas tout le cadre, je mets l'énergie sur le sujet. Et je laisse des zones vides.
Ok, très bonne explication. T'as raison, la réponse est dans la question.
Oui. Voilà. Tu réponds la question. Là. C'est bien.
D'accord, c'est bien. Je réponds à la question dans la question. Ok, c'est pas mal.
Là, je réponds aussi. Ouais.
Ok, magnifique. Et ensuite, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu utilises, je sais que tu utilises beaucoup le noir et le blanc, est-ce qu'il y a une raison particulière?
Oui, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de noir et blanc, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances dans le noir et blanc. Et donc, j'ai jamais considéré que c'était noir et blanc. J'utilise quelques couleurs en ce moment, le travail de en ce moment, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre noir et blanc et les autres couleurs. D'ailleurs, les Coréens, ils disent que blanc, c'est ça considère un couleur, c'est pas absence de couleur.
Ah, c'est intéressant ça, parce qu'en Occident, le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs.
Ouais, ça c'est un rapprochement qui est assez différent de chez nous, ouais.
D'accord, donc tu joues avec le noir et blanc, mais aussi avec beaucoup de nuances. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gris, des nuances de gris, du gris clair, du gris foncé, ce genre de ton.
Pour ça, j'aime bien l'encre de Chine. C'est un meilleur matériau pour exprimer, pour montrer toutes les nuances. Aussi des crayons. J'utilise pas mal de crayons.
Oui, parce que tu construis habituellement tes volumes à partir de dessins que tu crées.
Oui, mais bon, en même temps, ce n'est pas à partir d'un dessin. Hein, mais en fait, quand je fais des dessins, j'aime beaucoup imaginer comment ça va réaliser en volume. C'est ça
D'accord.
qui m'ouvre pour dessiner librement. Exister est un point et vivre est une ligne.
Tu viens de citer Yi Woo Han, un artiste peintre et sculpteur minimaliste coréen que tu apprécies particulièrement.
Moi, j'aime bien son univers parce qu'il est, bon, comme tu dis, il est artiste et, mais en même temps critique d'art. Je trouve qu'il c'est un artiste qui fait le lien entre l'art ancien et l'art contemporain.
Tu as déjà assisté à certaines de ces expositions?
Non, il y avait une exposition à Versailles, mais j'ai pas pu y aller. C'est bête. Mais bon, j'ai pas mal de catalogues sur lui.
Pour parler de tes photos, car tu es aussi photographe, tu utilises le corps humain, laissant les visages et les membres disparaître. Seules les jambes et les pieds sont parfois présents. Mais pourquoi avoir choisi ce type de mise en scène?
Parce que c'est une composition qui montre que la vérité d'une image n'est pas tout ce qu'on voit, mais le corps n'est pas coupé, c'est juste caché par les autres membres. Je ne sais pas si tu comprends, mais en tout cas par ailleurs, j'utilise ce type de composition également dans mes dessins.
Oui, je comprends, hein, c'est très clair et en regardant tes photos, c'est encore plus explicite. Et sur quoi est-ce que tu travailles actuellement sinon?
Bah, je vais t'envoyer des photos plus tard, bah, en disant que bah, voilà le dessin que je suis en train de faire et je suis en train de finir pendant le confinement.
Ouais.
Bah, pendant le confinement, ce qui était bien, j'ai eu pas mal de temps pour moi, donc je réfléchis pas mal pour les techniques, pour un peu plus précis pour développer mes idées. C'est des dessins, mais j'utilise aussi en même temps les couleurs avec les pigments naturels. Et sinon, pour les volumes, j'essaye des nouveaux matériaux. J'utilisais des papiers de riz pour le moment, mais j'essaye porcelaine en papier. C'est très fragile, mais en même temps, c'est très léger. C'est pas comme porcelaine qu'on voit d'habitude comme assiette.
Oui, ok.
C'est fragile et c'est très costaud, comme du papier de riz.
Oui, ça doit être bien pour maintenir une certaine légèreté au niveau de tes volumes, puisque la légèreté est un élément essentiel, hein, au centre de ton travail pour donner cet effet aérien.
Oui.
Et puis, en parlant de confinement, est-ce que tu avais prévu d'exposer cette année? Est-ce que c'est reporté à l'année prochaine?
Bah, le dernier exposition, ça a commencé il y a un an, en début décembre. Et on a démarré pendant les grèves. Et après, du coup, on a prolongé un peu plus et le Covid est tombé. Et après, il y a le confinement. Donc, c'est la première fois que mon exposition dure un an.
D'accord.
Et là, ça continue. Et voilà, je crois qu'ils vont terminer 11 décembre.
Oula, d'accord, c'est bientôt là.
Oui, c'est bientôt, bah, on termine. Bah, je crois que la galeriste, il compte faire l'exposition de la suite, une exposition de collectif des artistes qui ont travaillé pendant le confinement. Ils veulent montrer des œuvres pendant le confinement. Mais bon, voilà. En ce moment, il est en train d'exposer dans la galerie Dernier Jour, dans le 20e.
Pour terminer, Jiyun, qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu dessines?
Bah, en me basant sur l'environnement particulier dans lequel j'ai grandi, je dessine un sentiment qui m'est propre, ce que je ressens au présent, dans ma réalité, dans mon monde intérieur. Je commence par un point et puis par des traits. J'explore alors ces éléments et crée des images étranges et mystérieuses. Les formes souvent viennent de tous les membres vivants. Par exemple, les animaux, les insectes et des natures, etc. Et puis, j'essaie de les transformer en volume. Le volume est présenté souvent par un seul fil, comme la vie est fragile, mais en même temps qui est précieuse pour tout le monde.
On remercie Jihoon d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Ce fut un immense plaisir et on a hâte de pouvoir aller admirer ses nouvelles œuvres. En attendant, on vous met des photos d'elle et de son travail sur notre site. On passe maintenant à notre partie voyage avec nos deux amis, Jeanne et Julien. Eh ben dis donc, ça fait longtemps, comment ça va aujourd'hui les gars?
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien moi, ça va fraîchement. Et d'ailleurs, j'ai même ressorti la doudoune d'hiver.
Bonjour à tous, c'est vrai qu'on arrive aux températures négatives maintenant. Et Julien, je vois que tu as déjà sorti les gants des JO de Pyeongchang. J'ai trouvé plus frileux que moi.
Eh oui, je suis toujours à la mode 2018. Aujourd'hui, pour notre petite virée au pays du matin clair, nous partons du côté de Goyang. Située dans la province de Gyeonggi au nord de la Corée, elle fait partie de l'agglomération de Séoul, ce qui en fait une ville satellite. Goyang, c'est 600 ans d'histoire et de tradition, une ville avec une diversité culturelle et artistique, ainsi qu'une ville de haute technologie industrielle. De par son nom, la ville s'est attribuée pour mascotte un chat. Alors pourquoi un chat, me direz-vous? Eh bien simplement parce que chat se dit en coréen Goyang-i, et donc très proche du nom de la ville de Goyang. Située à environ une heure de Séoul, c'est une ville qui vaut le détour. D'ailleurs, je crois savoir que tu as une affection particulière pour la ville de Goyang, ma chère Jeanne.
C'est vrai, pendant des années, je me suis rendue à Ilsan, et j'y vais encore maintenant. C'est un immense quartier de Goyang. Pour je ne sais quelle raison, tous les Coréens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai lié une forte amitié venaient d'Ilsan. Alors je ne sais pas comment ils sont élevés là-bas, mais ça a l'air de bien marcher. Mais je n'allais pas vraiment là-bas pour visiter la ville, c'était plutôt pour m'amuser. Ce n'est que récemment que j'ai découvert le potentiel culturel de Goyang.
Et donc, quelle a été ta première impression que tu as eue de Goyang?
Alors, la première fois que je suis allée là-bas, je pensais me retrouver dans une ville dortoir, où il n'y aurait pas grand-chose d'autre que des quartiers résidentiels. J'étais loin du compte. Avec son million d'habitants, la ville est deux fois plus grande que Toulouse. Alors, imaginez ma surprise quand j'y ai vu un grand cinéma, des restaurants à n'en plus finir, les locaux des chaînes nationales NBC et SBS, des grands magasins, et j'en passe. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la propreté de la ville, comme si elle venait tout juste d'être construite.
Et pour cause, c'est ce qu'on appelle en coréen « Shindoshi », une nouvelle ville. Alors non pas que c'était un terrain vague avant, mais depuis maintenant une trentaine d'années, le gouvernement a développé de nouveaux aménagements dans certains quartiers ou villes comme Ilsan, Paju ou encore Bundang.
Et toi Julien, tu y es allé récemment pour la toute première fois. Qu'est-ce que tu as pensé de la ville ?
Alors oui, tout à fait. C'est une ville que j'ai découverte récemment. J'ai eu l'opportunité de participer à un tour organisé par l'Office du tourisme de Goyang et ainsi visiter la ville plus en profondeur. Avant cela, je ne connaissais la ville juste pour m'être rendu à son célèbre festival international de l'horticulture qui se tient fin avril, début mai.
Oui, c'est un festival qui se déroule dans le parc du lac d'Ilsan, où de millions de fleurs du monde entier sont exposées de façon artistique, dans le but de promouvoir l'industrie florale. Le festival a été organisé pour la toute première fois en 1997, puis tous les 3 ans. Et depuis 2012, il se tient tous les ans, attirant près de 6 millions de visiteurs.
Ce festival vous permettra de découvrir des plantes uniques et rares, de vous promener également dans un jardin intérieur à l'effigie de chaque pays représenté. Mais aussi d'autres événements et spectacles culturels sont prévus au programme. Sachez toutefois que même en dehors de la période du festival, une promenade au parc d'Ilsan est très appréciable. Il vous permettra entre autres de découvrir l'un des plus grands lacs artificiels de l'Asie.
Goyang est une ville qui a bénéficié d'un réaménagement proche de la nature. En plus du lac, de nombreux sentiers de promenade et parcours de santé ont été créés. Proche de la ligne démilitarisée, la DMZ, et donc de la Corée du Nord, Goyang a baptisé 9 de ses sentiers les chemins de la paix. C'est beau, hein ? La ville est une zone écologique qui voit passer de nombreux oiseaux migrateurs, comme les grues à cou blanc, dont on vous a parlé dans l'épisode 12 du podcast.
C'est bien, tu as écouté notre épisode, Jeanne.
Évidemment.
Alors, nous allons nous rendre à Goyang. D'ailleurs, j'en perds le fil. Voilà. Alors, pour vous rendre à Goyang, il suffit de prendre le bus ou la ligne de métro Gyeongui-Jungang. Pendant 30 à 40 minutes, la ligne Gyeongui, c'est également celle qui vous emmènera à Imjin-jak, dernière station avant la Corée du Nord. La station de métro Ilsan a été construite en 1932-1933 lors de la colonisation japonaise. Le bâtiment d'origine, classé monument historique, sert maintenant de musée pour vous montrer comment était faite la vie sous la période coloniale.
Et autre point historique de la ville, la forteresse Haengju-sansong. Elle joua un grand rôle lors des invasions Imjin de 1592 à 1598, où elle y a vu se dérouler l'une des 3 plus grandes batailles, et surtout victoires, de la Corée. Le général Kwon Yul et 3000 Coréens réussirent à repousser 30 000 soldats japonais, vous imaginez ? Le plus intéressant en plus dans cette histoire est le fait que parmi ces 3000 Coréens ne se trouvaient pas que des soldats, mais aussi des moines, des moines, et des femmes venues défendre leur ville, leur pays, leur honneur. Aujourd'hui, la balade autour de la forteresse vous mènera à un magnifique point de vue où vous pourrez admirer la montagne Bukansan, la ville de Gimpo, là où il y a le petit aéroport, le quartier de Yeouido, de Séoul, et par beau temps, les tours Namsan et Lotte. Rien que ça.
Et aussi le pont Panghwa, qui est l'un des plus beaux de Séoul. Avis aux amateurs de photos. Et pour les gourmands, à proximité de la forteresse se trouvent de nombreux restaurants qui vous proposent de goûter aux spécialités de la région. On y retrouve notamment le Ilsan Kalguksu, qui est un plat de nouilles à base de farine de blé servi dans un bouillon. Contrairement aux autres Kalguksu que l'on peut trouver en Corée, les morceaux de poulet sont ajoutés à la soupe. Autre mets de la région, l'anguille grillée et le Mikulati Tollegi, qui est une soupe de loche accompagnée d'une soupe de pâtes. En général, à base de farine de blé et coupée grossièrement à la main, Sujebi. Bon là, j'avoue, c'est un peu exotique. À l'origine, les loches et les anguilles étaient pêchées dans le fleuve Han, près de la forteresse. Et c'est pour cette raison que ces plats sont devenus les spécialités de la région.
Et comme on vous disait au début, Goyang est aussi une ville de haute technologie. Alors là, on change complètement de sujet. En 2017, a ouvert le Hyundai Motor Studio, le plus grand centre dédié à la culture automobile en Corée. Celui-ci vous fera vivre une expérience interactive et immersive à travers un voyage fascinant sur le processus de fabrication des véhicules haut de gamme de Hyundai. Autre bâtiment ultra moderne, le Korea International Exhibition Center, autrement dit le Kintex, c'est plus facile, Kintex. C'est un grand centre d'exposition et de convention. C'est le plus grand de Corée, plus grand que le COEX à Séoul ou Bexco à Busan.
Et un autre endroit qui vaut également le détour, mais cette fois-ci pour une visite plus culturelle, rendez-vous cette fois-ci du côté des tombes de Seollung. Attention à ne pas confondre avec Seonlung de Séoul qui se trouve dans le district de Gangnam. Les deux sites sont assez similaires, parce que tous les deux sont des sépultures. Seollung signifie les cinq tombeaux de la famille royale Joseon. Il s'agit du deuxième plus grand site de sépulture royale de Corée. Seollung fait donc partie du complexe des tombes de Joseon classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009. Le site est composé de cinq tombes de rois, de la tombe d'un prince héritier et de celle de deux concubines, dont l'une d'entre elles fut la mère du prince déchu, le prince Sado. Cette histoire est tristement célèbre et est d'ailleurs disponible en film si ça vous intéresse. Pour en revenir à ce parc immense, il possède une histoire de près de 300 ans. C'est un endroit où vous pouvez voir les changements et les caractéristiques des tombes royales de la dynastie Joseon à travers les époques, tout en apprenant l'histoire des rois et des reines de la plus longue dynastie coréenne.
Et pour parler de rois un peu plus contemporains, un roi de la K-pop, petit mot pour la fin, Ilsan est la ville natale de Rapmonster, le leader des BTS.
Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de ce 15e épisode du Corée Voyage Show. On remercie Jeanne et Julien d'avoir participé à cette émission, mais également Jihoon qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Comme nous avons enregistré son interview la semaine dernière, son exposition est malheureusement terminée. Mais amis parisiens, gardez un œil sur la programmation de la galerie Dernier Jour dans le 20e arrondissement, car les œuvres de Jihoon risquent de revenir à l'affiche. On vous met le lien de la galerie dans la description. N'hésitez pas à soutenir ces artistes et tout le milieu du spectacle et de la culture, surtout en ce moment. En parlant d'artistes, petit clin d'œil à notre ami Étienne de la Saillette. Vous aurez peut-être reconnu certaines parties du morceau de Maputo Queens intitulé Ma Fa Dubu. On vous remet également le lien dans la description et écoutez l'épisode 10 du Corée Voyage Show pour tout savoir sur son parcours musical. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mille merci à toutes et à tous de continuer à nous suivre. Tous vos encouragements et commentaires nous font chaud au cœur. On se quitte maintenant en musique avec le groupe Zarbot et leur morceau Dieseptef sur les recommandations de Jihoon. On les salue au passage et on vous met aussi tous les liens dans la description. Attention, ça décoiffe, alors accrochez-vous et pour vous mettre dans le bain, rien de mieux qu'une petite présentation extraite de leur site internet que je vais vous lire. Il n'y a pas de diable, ce n'est que le système. Avec ce constat sur la réalité du monde dans lequel nous vivons, Zarbot imagine un monde post-apocalyptique où le mal rôde partout. Pour survivre, nous devons accomplir un voyage semé d'embûches dont la destination est incertaine. Doit-on faire confiance à nos compagnons de voyage? La nuit, nous nous cachons au fond des cavernes et attendons que le jour revienne. Para el lío, 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 el l